Jésus disait à des Juifs qu'il avait repris qu'en fait, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et puis il ajoute une petite phrase très importante qui dit « en vérité, je vous le dis, quiconque commet, une autre traduction serait « quiconque pratique le péché est esclave du péché ». Paul, dans Romains 6, nous dit « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Chose qui est terrible dans notre vie, c'est d'être esclave au péché. Jésus nous encourage, si vous demeurez dans ma parole, vous allez être mes disciples, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, va vous libérer de cette captivité terrible. Nous vivons dans un monde où on parle beaucoup plus du plaisir du péché que des conséquences terribles du péché. La Bible reconnaît que le péché est plaisant, agréable, mais tout de suite il est ajouté pour un temps, pour une saison. Et nous savons tous, malheureusement par expérience, que cette saison, elle est très courte. Le Seigneur veut nous reprendre par sa parole, nous encourager, et il nous demande d'avoir une attitude souple dans nos cœurs, de nous laisser attendrir par sa parole, par son amour. Il y a un proverbe que nous allons voir illustré dans ce que nous allons étudier bientôt, c'est le proverbe 29:1 qui dit « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit la nuque sera gentiment repris, non, sera brisé tout d'un coup et sans remède. Dieu est patient, il nous aime, mais en même temps il veut nous reprendre dans notre vie, il veut que nous ne soyons pas esclaves du péché. Et il arrive un moment où nous risquons d'être repris, d'avoir la nuque brisée et qu'il n'y ait plus de remède. L'esclavage, la captivité. Un autre passage intéressant qui me donne toujours beaucoup de désir de connaître toute la parole, c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 10, parlant de l'histoire de l'Ancien Testament, on peut lire 1 Corinthiens 10, 6, il nous dit « Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. » Et puis, verset 11, « Cela leur est arrivé, il raconte un peu, il a mentionné des terribles calamités qui sont tombées sur ce peuple rebelle. Il dit, « Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. » Je vous dis tout ça pour introduire l'étude que nous allons commencer aujourd'hui, l'étude du livre historique, le second livre des rois. Nous avons terminé le premier livre des rois il y a quelque temps, probablement près d'un an, Puis nous avons étudié des passages du Nouveau Testament, Thessaloniciens, Timothée 1 et 2. Nous avons fait une étude le thème des disciplines spirituelles. J'espère que cela vous a encouragé, vous a aidé à vous remettre à faire les choses de votre premier amour, lire la parole, prier, gérer votre temps, votre argent, évangéliser, louer le Seigneur. Toutes ces choses sont des choses clés, mais nous aimons bien revenir à l'étude systématique de la parole, livre par livre, verset par verset, Ancien Testament comme Nouveau Testament. Il y a des fois des chrétiens qui disent « Nous, nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament. » Et dire ça, c'est un peu dire qu'on est des chrétiens à moitié. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Ancien Testament, il est beaucoup plus volumineux que le Nouveau. Et il n'est pas question de comparer la valeur de l'un contre l'autre, parce qu'en fait, c'est la seule et même parole de Dieu. Et les livres historiques sont des livres qui sont pleins d'une grande richesse, parce qu'il y a question de l'histoire, comme on étudie l'histoire de France ou l'histoire du monde. C'est l'histoire du peuple de Dieu, c'est historique, il y a plein de dates, d'événements qui ont été corroborés, qui ont été vérifiés par l'archéologie, par l'histoire non chrétienne, non biblique du monde. Mais c'est très important de réaliser que cette histoire qui nous est racontée, elle nous est racontée avec un message. Et le livre des rois, les deux livres des rois, les livres historiques, en fait, c'est l'histoire du peuple de Dieu qui nous montre comment ce peuple s'est rebellé contre Dieu, comment Dieu l'a encouragé à revenir à lui, comment il y a eu des tentatives de revenir à lui, et puis comment ils se sont encore éloignés de lui. Dieu veut nous avertir, il veut nous donner un exemple pour que nous suivions ce qui est bien dans ces exemples, et que nous évitions à tout prix ce qui est mal. Et c'est vrai que pour certains, on peut parler de doctrine de façon un peu abstraite, et les gens reçoivent ça, mais la plupart d'entre nous, nous aimons bien une histoire, nous aimons bien les anecdotes. C'est drôle quand on enseigne la parole et qu'on arrive à partager des illustrations, des anecdotes, on sent tout de suite les gens se relaxer. Les gens se disent « Ah ça, je comprends. Ça me plaît. Raconte-nous encore des histoires, puis des histoires drôles. » Et là, nous allons voir que Dieu, en fait, c'est le meilleur communicateur au monde. Aujourd'hui, on a des équipes. J'ai entendu qu'aux États-Unis, la campagne... Le groupe des démocrates pour la campagne d'Obama a embauché 200 spécialistes des nouvelles technologies pour arriver à créer des buzz, pour arriver à créer un engouement pour la candidature d'Obama en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant Twitter, Facebook, vous les nommez, ils y sont tous. Un effort est tellement fait sur la communication. Nous-mêmes, en France, on voit comment la campagne présidentielle et bientôt la campagne législative, ça ne se résume pas, ça ne se fonde pas sur des échanges de programmes et d'idées qu'on peut apprécier à leur juste valeur. Ça se défend à coup médiatique. Aujourd'hui, Sarkozy espère rassembler 70 000 personnes, faire un grand coup, et puis on fait des coups médiatiques, et puis après on ne va pas voir si c'est juste ou pas juste, on va voir si les sondages ont changé. tout dans les médias. Mais Dieu, lui, c'est le conteur parfait, c'est celui qui nous raconte des histoires qui ont un intérêt réel. Et nous allons voir malheureusement que Israël et Juda, vous vous souvenez, quand on avait étudié le premier livre des rois, on avait rappelé que le roi David avait créé un grand royaume. À sa mort, son fils Salomon avait encore poussé l'étendue du royaume, sa gloire à un niveau jusque-là jamais atteint. Mais à la mort de Salomon, le royaume avait été divisé en deux. Une partie, c'était le royaume du Nord, qu'on appelle dans l'Ancien Testament Israël, avec pour capitale Samarie. Et puis au sud, l'État de Juda, pas l'État de Juda, mais Juda, avec pour capitale Jérusalem. Et les livres historiques sont en fait l'histoire de ces deux pays, Israël et Juda, et comment à force de désobéissance à Dieu, à force de rejeter les enseignements de Dieu, les occasions que Dieu a données de se repentir, on va voir que ça va aller de mal en pis, que en 721 ou 722 avant Jésus-Christ, Israël va être emmené en captivité en Assyrie et Juda va durer un peu plus longtemps, mais va finalement être emmené en captivité en 586 avant Jésus-Christ et cette fois-ci à Babylone. Et donc l'histoire de racontée dans la Bible, dans ces livres historiques, c'est l'histoire de la conséquence de la désobéissance volontaire du peuple de Dieu contre la parole de Dieu. C'est l'histoire de la rébellion du peuple de Dieu. Et encore une fois, Paul nous explique tout ça. C'est pas pour vous embêter le dimanche matin à parler de rois dont on ne sait même pas trop comment prononcer le mot, le nom, des endroits qu'on ne connaît pas, on sait vaguement c'est à l'est, par là-bas, dans le Moyen-Orient ou un peu plus loin. Non, tout ça c'est d'une actualité brûlante, c'est d'une pertinence remarquable. Et on va voir qu'à l'occasion de ces histoires, apparaissent sur la scène des hommes de Dieu qui sont ce qu'on a tendance à appeler des grands hommes de Dieu. Là, on va voir, on avait vu à la fin du livre des rois l'apparition du prophète Élie, un grand prophète qui avait mis au défi les prophètes de Baal et qui avait remporté une grande victoire au Mont Carmel. Et puis là, on va voir, il va encore être capable de... On va le voir faire quelques miracles, mais il va donner la main à un successeur qui s'appelle Élisée. Je vois que les hommes politiques sont très intéressés par l'histoire d'Élisée, avec un Y, là c'est avec un I. Je crois que l'Élysée c'était un lieu dans la mythologie grecque, un lieu de félicité, d'où l'appât de se faire élire à l'Élysée. Non, ces deux prophètes, en fait, on a tendance à les mettre sur un piédestal, et à croire qu'ils sont remarquables, qu'ils sont inatteignables. Mais on va voir aussi qu'en fait, ce sont des hommes comme nous, simplement. Ils sont animés d'une foi et d'une fidélité. Encore une fois, ce qui compte, c'est pas vos capacités, c'est votre fidélité. Et ça, ça vaut dans plein de domaines. Ça vaut même dans le domaine des langues. On a pu voir, et certains ont connu, des personnes qui n'étaient, entre guillemets, pas douées pour les langues, mais qui, à force de fidélité, parlent maintenant le français couramment, sans accent. J'ai fait beaucoup de fautes, j'ai appris le français. Non, pas moi, mais on a d'autres personnes qui sont nées à l'étranger et qui parlent le français très bien parce qu'ils ont été fidèles pour poursuivre. Et encore une fois, Dieu veut nous inciter, veut nous encourager à ne pas nous décourager, mais à chaque fois nous relever, lui demander son aide, lui demander pardon et à continuer. Ça, c'est une petite introduction. Aujourd'hui, on va seulement voir le premier chapitre de ce second livre des Rois. Mais vous allez voir encore une fois que c'est tellement riche d'enseignements. Si vous n'avez pas l'habitude de lire l'Ancien Testament ou que ça vous barbe un peu, j'espère que je vais pouvoir vous communiquer ma passion pour trouver des enseignements, ma passion de lire et de se faire enseigner par l'Ancien Testament. On va lire, et une fois n'est pas coutume, parce qu'encore une fois, les divisions de la Bible ne sont pas nécessairement inspirées, on va lire les quelques trois derniers versets du livre précédent, 1 Roi 22, 52. Et on va parler du roi Ahazia. Verset 52, « Ahazia, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. » Encore une fois, dans ces récits, il faut réaliser qu'on parle des rois, soit d'Israël, le royaume du Nord, soit de Juda, le royaume du Sud. La Bible a tendance à se focaliser sur les personnes qui vont mener au Messie. Donc on va parler beaucoup plus de Judas, qui va amener Jésus, que d'Israël, mais là on parle d'Ahazia, qui était du royaume du Nord. Il fit, verset 53, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et marcha dans la voie de son père, dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rendit un culte à Baal et se prosterna devant lui. Il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme avait fait son père. Ahazia. Quelque part, on pourrait dire, le pauvre, il n'avait pas de chance. Il est tombé dans une mauvaise famille. Dans le royaume d'Israël, il n'y a pas eu un seul bon roi. Et en plus, lui, il est né fils d'un des plus mauvais rois et sans doute de la plus mauvaise reine. Achab et sa mère, c'était Jézabel. Et il s'est laissé influencer. Il n'a régné que 2 ans sur Israël. Et surtout, il a rendu un culte à Baal. Il a adoré un faux dieu. Il s'est livré à l'idolâtrie et il l'a fait en tant que roi modèle pour son peuple d'Israël. Et ça avait le don d'irriter l'Éternel. C'est jamais une bonne idée que d'irriter l'Éternel. Si vous êtes enfant, vous savez que ce n'est pas une bonne idée d'irriter vos parents ou d'irriter vos maîtres. La Bible dit que nous, ce n'est pas une bonne idée, nous qui sommes des papas, d'irriter nos enfants. Mais l'idée d'irriter, c'est de provoquer à terme une réaction qui n'est pas bonne pour nous. Quand on irrite quelqu'un, on finit par en payer les conséquences. Et là, on va maintenant lire le premier chapitre du livre des Rois. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or Ahazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et se blessa grièvement. Il envoya des messagers et leur dit « Allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je survivrai à cette blessure. » Petite remarque historique qui est confirmée dans le deuxième livre des rois. Il y avait le pays, le royaume de Moab, qui était un état qui était voisin du royaume d'Israël, qui avait été subjugué, qui avait été dominé, conquis par David. Et on peut lire ça dans 2 Samuel 8:2. Et souvent, lorsqu'un pays remportait une victoire sur un autre pays, il n'allait pas nécessairement l'envahir et le peupler par leurs propres gens, mais une chose qu'il faisait au moins, c'était de leur faire payer des taxes. Un grand sujet de campagne politique, les taxes, les impôts. Et en fait, ils avaient demandé à Moab de verser des impôts, des taxes énormes. On verra au verset 4, ils devaient payer chaque année 100 000 agneaux, 100 000 béliers avec leur laine. Ça en fait des wagons, des camions d'agneaux. Et lorsque le roi Achab est mort et que Ahazia, son fils, est monté sur le trône, Moab en a profité pour se révolter, sachant qu'il y avait une fenêtre de tir où il y avait un changement de régime et qu'on espérait peut-être se dégager de cette terrible obligation de payer un tel impôt à Israël. Mais en fait, Ahazia, ce roi qui se livrait à l'idolâtrie, qui avait irrité l'Éternel, il est victime d'un accident. Il tombe, pas d'une échelle, comme certains, il n'y a pas longtemps, il tombe par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Alors, il n'y avait pas encore de fenêtre en verre, il n'y avait pas de vitre, ce n'était pas encore au point. Et ce que l'on faisait, c'est que plutôt de mettre une vitre et des rideaux, on mettait un treillis en bois léger. Donc soit c'était une fenêtre contre un mur et en s'appuyant malencontreusement, en glissant, en tombant, ce roi fait une chute sans doute assez haute. Il se blesse grièvement, ou peut-être c'était une fenêtre dans le toit, peut-être un passage qui laissait passer la lumière et lui, sans faire attention, a marché dessus. Toujours est-il qu'il est grièvement blessé. C'est le stress, c'est la crise. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller consulter Baal-Zébub. Il va aller vers son faux dieu, qui était le dieu d'Écron, une ville de Palestine. Même pas pour demander la guérison, mais pour avoir un oracle, pour savoir qu'est-ce qu'il en était et est-ce qu'il allait survivre. Il savait que ça allait. Il avait fait une chute très dangereuse, très 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 grave. Il s'était peut-être cassé la colonne vertébrale et toujours est-il que son premier réflexe, c'est d'aller vers son Dieu. Et la question, c'est vers qui ou quoi nous allons nous tourner dans le moment de crise? Tous autant que nous sommes, nous allons passer par des moments de crise. On n'aime pas ça, on aimerait tous plutôt une vie longue et tranquille qui débouche sur un paradis sans histoire. Mais nous vivons dans un monde entaché par le péché qui connaît qui nous fait connaître des moments de crise, que ce soit dû à notre péché, que ce soit la conséquence du péché des autres, ou que ce soit la conséquence de vivre dans un monde entaché par le péché. Mais la question, c'est quand je rencontre un moment de crise, quel est mon réflexe? Vers quoi je me tourne? Vers qui je me tourne? Souvent, ça peut être le péché. On se dit, j'ai essayé d'être gentil. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Donc, je vais me laisser aller à mon péché, quel qu'il soit. On va se dire, ah, c'est le stress, c'est la crise. Je vais aller boire un coup. L'alcool. Alors la Bible est claire qu'on est autorisé à boire un peu, mais jamais être sous l'emprise de l'alcool. Jamais être dominé par l'alcool. Et quand on commence à boire, pour oublier ce souci, un pasteur expliquait qu'en fait, on oublie qu'en fait, ces soucis, nos soucis, on veut les noyer, mais ils savent nager. Et quand l'effet de l'alcool, la gueule de bois sera passée, non seulement on ne sera pas bien physiquement, mais en plus les soucis n'auront pas bougé. Les soucis seront toujours là. À un moment de crise, il y en a qui se tournent vers la drogue, d'autres vers le sexe, d'autres vers la nourriture, la boulimie, l'anorexie. J'ai mortifié mon corps, au contraire, le satisfaire. Je n'aime pas manger seulement une boîte de glace, je vais en manger trois. Ça va faire du bien, je vais oublier. Ou alors, on peut se tourner vers une personne. Il faut absolument que j'appelle ma mère, ce qui n'est pas mauvais en soi, ou que j'appelle ma voisine au téléphone, je vais passer une heure avec elle alors qu'en fait je pourrais peut-être même aller la voir. Vers qui, vers quoi on se tourne dans les moments de crise? Où est notre réflexe? Ahazia n'était pas proche du vrai Dieu, donc son premier réflexe, c'est de se rapprocher du faux Dieu avec qui il est proche. Et en fait, la chose ou la personne vers laquelle vous vous tournez, la crise va vous la montrer et va vous montrer qu'en fait, va vous montrer votre Dieu, votre idole. On peut affirmer qu'on fait confiance au Dieu de la Bible, qu'on est chrétien. Mais qu'est-ce qu'il en est pratiquement dans votre vie? Est-ce que tout de suite vous pensez à Dieu, vous l'invoquez, vous priez, vous lui remettez votre situation? Ça ne veut pas dire qu'il ne vous dise pas d'aller parler à votre voisine ou d'aller voir consulter un médecin. Mais une chose qu'il faut réaliser dans notre monde moderne, et ça vaut dans tous les domaines de l'activité humaine, tous les professionnels supposés nous aider ne sont pas Dieu. Est-ce que vous le savez? Des fois, on se dit, il y a un grand spécialiste à l'archer. J'ai un problème de genou, je vais aller le voir. Notre pays est dans la crise, je vais faire confiance à un professionnel de la politique qui est passé par l'ENA, qui a fait la Cour des comptes, quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Tous ces professionnels qui sont supposés vous aider, en fait, ce ne sont que des hommes et des femmes qui ont des limites. Seul Dieu est Seigneur. Amen. Alors vous dites amen, c'est bien, merci. Faites-le concrètement, et je me le dis à moi-même, est-ce que je le fais concrètement? Est-ce que quand j'ai un problème, mon premier réflexe, c'est Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible? Dieu n'était pas réel pour Ahazia parce qu'il avait un faux Dieu. Sachez que Dieu va être réel pour vous, aussi réel que la mesure dans laquelle vous le recherchez tous les jours. Si vous n'y pensez que quand il y a vraiment la cata, il va pas vous paraître très proche, mais il veut être proche. Continuons. Verset 3, « L'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal, Zébub, Dieu d'Écron ? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. » Puis Élie s'en alla. Ahazia, à vos souhaits, Ahazia, après sa chute, envoie des gens voir son faux dieu, Baal-Zébub. Baal-Zébub, c'était en fait un terme que l'on a utilisé contre Jésus-Christ. C'était une insulte parce que c'était le dieu des mouches, le dieu de Baal-Zébul ou Baal-Zébub. Certains pensent que c'était le titre du dieu de la terre, mais qu'il avait, les juifs, en s'en moquant, l'avaient appelé le dieu des mouches. Et c'était aussi supposé être le dieu de la guérison. Et si vous imaginez un hôpital où il y a plein de mouches qui infestent les blessures des blessés plutôt, c'est pas le genre d'hôpital ou de dieu auquel on veut se référer. Mais lui, il connaît que ce faux dieu, cette version de Baal, dieu des mouches, est l'ange de l'Éternel. Souvent, ça peut vouloir être dire que c'est Jésus-Christ lui-même, Jésus pré-incarné. L'ange de l'Éternel, c'est une expression qui revient dans beaucoup de passages de la Genèse. C'est souvent justement Jésus-Christ pré-incarné qui vient se mêler des affaires des hommes. Et là, il va dire à Élie, le prophète, et il lui dit, il y a ce roi qui a envoyé ses messagers, va lui dire qu'il ne va pas survivre et en renvoie-les. Verset 5, Élie s'en alla, plutôt juste à la fin du verset 4, toujours d'une façon un peu brutale, on verra plus loin. C'est la façon dont il va partir. Verset 5, les messagers revinrent auprès d'Ahazia qui leur dit, pourquoi revenez-vous ? On peut noter au passage que, quelque part, Élie avait une autorité qui lui venait de sa relation avec Jésus-Christ, avec Dieu. Jésus-Christ, là, il lui parle. Il faisait confiance, sans le savoir peut-être exactement, à ce Messie qui allait venir. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, Jésus, l'ange pré-incarné, l'ange de l'Éternel, lui dit, dis-lui qu'il ne va pas en réchapper. Il leur demande, les messagers reviennent, impressionnés par la personnalité, par l'autorité de ce message. Ils reviennent dire au roi qu'un homme est venu les voir et leur a dit qu'il n'allait pas en réchapper. Un homme nous a dit, verset 6, allez, revenez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron ? C'est pourquoi le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. Si on peut trouver quelque chose de bien en Ahazia, c'est qu'en fait, il avait trouvé des conseillers, des envoyés qui étaient fidèles. Il répète fidèlement le message que Élie leur a donné. Et tout de suite, Ahazia, qui, rappelez-vous, était le fils de Achab et Jézabel, à qui Élie avait fait pas mal de misère, leur demande, quelle allure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ? Il lui répondit, c'était un homme avec un vêtement de poil, d'autres disent, c'était un homme plein de poil, il avait une ceinture de cuir autour des reins, alors Ahazia dit, c'est Élie le Tishbite. Il se souvenait de cet homme Et il leur demande à quoi ils ressemblaient, et il est sûr que c'est encore ce prophète, ce satané, entre guillemets, ce mauvais prophète qui a fait plein de misère à ses parents, qui lui a dit ça. Verset 9, il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui est assis sur le sommet de la montagne et lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef des 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le dévora avec ses 50 hommes. Waouh ! C'est pas la première fois que Élie fait descendre le feu de Dieu avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il avait, vous rappelez, fait tomber le feu de Dieu sur le sacrifice qui avait été consumé en un instant. Ce miracle n'avait pas servi à éduquer apparemment ces hommes qui obéissent à leur roi et qui essayent de venir chercher l'homme de Dieu. Et Élie lui dit, mais tu m'appelles homme de Dieu, je vais te montrer que je suis vraiment un homme de Dieu, un homme qui a une relation avec Dieu. Et le feu tombe sur ces 50 hommes. Verset 11, Ahazia, qui n'a rien compris, envoie de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi parle le roi, hâte-toi de descendre. » Donc le roi envoie encore une troupe de 50 personnes avec un chef. Et là, ils lui disent, « Dépêche-toi, descends. » Et Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora avec ses 50 hommes. Deuxième leçon. Mais Ahazia continue. Il envoya de nouveau le chef d'une troisième cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, peut-être que là il voyait l'herbe brûlée. Il avait entendu l'histoire. Il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, je te prie que ma vie et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici que le feu est descendu du ciel et a dévoré les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descend avec lui, n'aie pas peur de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Finalement, la troisième troupe arrive et là, l'homme, le chef est plus sage. Il vient humblement demander à Élie de le suivre. Parce qu'il sait qu'il est entre deux feux. Si Élie ne veut pas descendre, il va faire descendre le feu du ciel sur sa troupe et sur lui. S'il revient sans Élie, le roi va être furieux et probablement lui réserver la mort. Il a appris un peu sa leçon. Et c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel dit à Élie, descend avec lui, n'aie pas peur de lui. Ce qui prouve que sans doute le roi Ahazia, avec les deux premières troupes, avait le désir de faire du mal à Élie pour probablement le tuer ou l'emprisonner. Là, Élie descend. Et là, une fois encore, il va donner le message au roi, et il lui dit, ainsi, verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, est-ce parce qu'il n'y aurait point en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole? Eh bien, le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. » Ahazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car Ahazia n'avait pas de fils. Le reste des actes d'Ahazia, ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Remarquez bien, Élie donne son message tel quel, il n'est pas influencé, il n'a pas peur, et la parole de l'Éternel s'accomplit. Dieu tient ses promesses. Pas une seule parole n'a manqué de se réaliser dans le passé ou ne va manquer de se réaliser pour les prophéties, les promesses non encore réalisées. C'était la leçon d'une petite méditation de Chuck Smith sur notre sagesse pour aujourd'hui. Le jeudi 8 mars, le passage c'était le 1 Roi 8:56, qui faisait allusion à la promesse dans le Lévitique 26:11 où Dieu avait dit qu'il établirait son temple au milieu de vous. Et le passage cité, c'est 1 Roi 8:56, dans lequel Salomon procède à la dédicace, à l'inauguration du temple. Et il remercie le Seigneur en disant « Je remercie le Seigneur qui a donné le pain à Israël, son peuple, tout comme il l'avait promis. En effet, il a réalisé en tous ses détails la merveilleuse promesse qu'il avait faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Il a permis la construction de ce temple. » Et encore une fois, la leçon, comme dans ce passage aujourd'hui, c'est que Dieu tient ses promesses. Un passage du Nouveau Testament nous le rappelle dans Galates, chapitre 6. Versets 7 et 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme en aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cette idée que, en obéissant à Dieu, on sème pour l'esprit et on va moissonner la vie éternelle, alors que si on désobéit à la parole de Dieu, ses promesses vont s'accomplir aussi et qu'on va récolter la corruption, la mort. Élie apparaît ici encore une fois comme un grand prophète qui fait descendre sur ces malheureux soldats le feu de Dieu, le feu de la colère de Dieu. Et on a tendance, c'est vrai, à mettre Élie sur un piédestal. Il fait partie de ces grands prophètes. Mais nous sommes pas des prophètes, nous sommes des chrétiens pardonnés, mais on a du mal à vivre dans la sainteté, on a du mal à faire confiance à Dieu. En fait, Jacques, dans son épître, nous parle, après le livre de Hébreux, il nous parle du prophète Élie en nous rassurant. À la fin de son épître, de sa lettre, Jacques dit, dans Jacques 5, 17, « Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Quel genre d'homme était-ce ? C'était un homme comme nous. Ce qui est intéressant, c'est que le roi Ahazia, lorsqu'il entend parler de cette prophétie d'un inconnu, il leur demande quelle allure avait cet homme. C'est une question clé. Les messagers décrivent alors l'apparence physique, l'air de cet homme. C'était un homme comme nous. Mais il savait aussi que c'était un homme de Dieu. Un homme de Dieu, on a souvent l'impression que c'est réservé à une élite. Il y a certains pasteurs qui aiment bien se faire appeler serviteurs de Dieu. Nous devons tous être des serviteurs. Et les grands, on les appelle les gens qui ont une grande influence, c'était un grand homme de Dieu. Mais qu'est-ce que c'était que ce qui caractérisait Élie en tant qu'homme de Dieu? C'était 4 points. Il était d'abord guidé par le Seigneur. Et tous, autant que nous sommes, nous pouvons demander à Dieu de nous guider, de nous donner sa sagesse. Il est dit qu'il le donne volontiers, qu'il l'accorde. Quand nous avons des décisions à prendre, lorsqu'il nous parle, nous devons le laisser nous conduire. Et c'est ce que fait Élie. Il a rencontré l'ange de l'Éternel qui lui a dit d'aller à la rencontre. Lève-toi, monte à la rencontre des messagers. Dis-leur ceci. Il était guidé par le Seigneur. Il a aussi, la deuxième chose, c'est qu'il a glorifié Dieu. Il a glorifié le Seigneur. Il est allé vers prévenir le roi que il était idolâtre, qu'il ne respectait pas le vrai Dieu, qu'il honorait, qu'il vénérait des faux dieux. Il voulait donner toute la gloire à Dieu. Et là, nous aussi, nous pouvons être utilisés pour glorifier Dieu en indiquant à ceux qui nous entourent le vrai Dieu. Que ce soit pour nos frères chrétiens qui ont oublié qui était le vrai Dieu ou pour les incroyants qui ne connaissent pas du tout le vrai Dieu. Et nous sommes entourés par des gens qui se basent sur de faux espoirs, sur de fausses vérités, sur des mensonges, pour continuer à vivre. Demain, tout ira mieux. Demain, avec le changement de politique, les problèmes seront résolus. Demain, avec les progrès de la médecine, je vivrai plus longtemps. Demain, avec les progrès de la médecine, je vivrai bien, je serai riche. On peut souhaiter ces choses pour nos contemporains, mais la vérité, c'est que la vie ici-bas, elle est très courte et que ce qui compte, c'est la vie éternelle qui nous attend. Et on glorifie Dieu lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on fait du témoignage, lorsque l'on témoigne de ce qu'il a fait dans nos vies. Troisième point de cet homme de Dieu qui nous appelle tous à devenir, c'est qu'il a fait confiance au Seigneur. Il était seul à chaque fois contre 50 hommes armés. Il aurait pu trembler. Mais il avait confiance que Dieu allait le protéger. Il ne faisait pas cas de sa vie. S'il devait partir, sans doute, il se disait c'était le moment. On verra dans l'Apocalypse qu'ils ont vaincu Satan parce qu'ils n'ont pas tenu leur vie comme quelque chose de précieux par la parole de leur témoignage et leur amour de Dieu. Ça, c'est un passage important dans l'Apocalypse. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et tous nos frères persécutés sont des preuves vivantes, malheureusement douloureuses, que lorsqu'on fait confiance à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il nous épargne, mais ils vainquent. Ils ont la victoire finale. Et puis, finalement, quatrième point, pour être un homme de Dieu, il a fait la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Il a donné, il a prononcé le message que Dieu lui avait donné pour le roi, tel quel, sans l'améliorer, sans le rendre moins injurieux, moins mauvais pour le roi. Il n'a pas eu peur, il a fait la volonté de Dieu. Et ce grand prophète qui va bientôt passer de la scène terrestre, on va le voir au second chapitre. Cet homme de Dieu, il nous dit, vous pouvez vous aussi être un homme, une femme de Dieu, si vous laissez guider par Dieu, si vous le glorifiez, si vous lui faites confiance et si vous faites sa volonté. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est... On dit oui, mais c'est quand même difficile. C'est difficile. Mais si nous demandons son aide à Dieu, il va nous l'accorder. Si nous demeurons dans sa parole, nous allons être vraiment libres. Et il va nous aider à briser les chaînes, la captivité du péché. Amen.